Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Bonjour et bienvenue dans l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest signé Podcasting. Podcasting, ce sont des entretiens avec des journalistes, des séries, des enquêtes et de longs reportages. Je m'appelle Jean Berthelot de l'Agleté. Nous recevons aujourd'hui un ami de podcasting qui est déjà venu à plusieurs reprises nous parler de son métier de journaliste et en particulier de ses reportages à l'international. Cette fois, nous le recevons pour évoquer la situation en Iran, un pays qu'il connaît bien. Vous revenez de la zone frontalière du Kurdistan irakien à l'ouest de l'Iran. Bonjour Laurent Perpignan-Iban.
Bonjour Jean.
Vous êtes originaire du Pays Basque et vous travaillez notamment pour Libération, Politis, Le Monde Diplomatique ou la revue Far West. Vous vous intéressez en particulier au peuple sans État, c'est le cas des Kurdes, et nous aurons l'occasion d'y revenir. Et puis, je le disais, vous êtes un ami de podcasting puisque vous aviez tout simplement été notre tout premier invité il y a un peu plus de 2 ans. Alors Laurent, avec vous, nous allons, je le disais, nous intéresser à la situation en Iran et en particulier à la manière dont la vivent les Kurdes dans ce pays et en Irak voisin. Mais tout d'abord, pour nos auditrices et nos auditeurs qui ne connaîtrait pas bien la zone, un petit rappel en quelques mots. L'Iran est une république islamique depuis 1979. La zone, bien sûr, a une histoire multimillénaire puisque la Perse, c'est-à-dire l'actuel Iran, est l'un des berceaux de la civilisation. L'Iran est dirigé par le guide suprême Ali Khamenei, un religieux évidemment. C'est un pays qui compte un peu moins de 85 millions d'habitants, en majorité des chiites à 89%, et c'est d'ailleurs l'une des particularités de ce pays qui est l'un des 4 seuls dans le monde musulman où les chiites sont majoritaires. D'ailleurs, ce sont les sunnites qui sont les plus nombreux. Alors l'Iran est donc un pays qui est habituellement considéré comme une dictature religieuse, dans lequel la contestation était quasiment impossible jusqu'à très récemment. Un événement est venu bouleverser l'ordre établi, c'est la mort de Mahsa Amini le 16 septembre dernier, une jeune kurde de 22 ans. Dans quelles conditions a-t-elle trouvé la mort ?
Mahsa Amini se trouvait à Téhéran au début du mois de septembre en famille. Elle a été arrêtée par la police des mœurs, le Gard el-Erst, et amenée au commissariat. La suite est assez trouble. Les informations sont assez partielles. Ce qui en ressort, du moins les témoignages de sa famille, disent qu'elle a été battue à mort par la police sur place, par la police des mœurs. Elle est décédée 3 jours après son arrestation dans un commissariat de Téhéran.
Et c'est ce décès qui a poussé une partie de la population iranienne à se soulever, à aller dans la rue pour protester. De quelle manière cela s'est-il manifesté ?
Ça a été extrêmement rapide, ça a été fulgurant. Les Iraniens ont, et les Iraniennes ont un fort potentiel de mobilisation. On l'a vu notamment ces dernières années avec les manifestations de 2019 et de 2018, où il y a eu 2 vagues de contestation très importantes dans le pays. Là, c'était quelque part un symbole et ça a été facilité par le fait que Mahsa Amini, donc Gina de son prénom kurde, soit kurde. Immédiatement, sa ville natale à Sakez, dans le Kurdistan iranien, s'est soulevée. Beaucoup de gens sont descendus dans la rue, ont commencé à chanter des slogans tels que « Femme, vie, liberté ». Ça a été repris comme une traînée de poudre dans l'ensemble des villes du Kurdistan iranien, puis dans la capitale à Téhéran, et ça s'est étendu à l'ensemble des provinces iraniennes, c'est-à-dire sur l'immensité de ce territoire. On a eu affaire à des manifestations colossales où les gens, où les jeunes filles principalement, prenaient les rues et en signe de contestation, enlever leur voile. C'était un moment qui était très fort, un moment surtout qui s'est répandu à une vitesse ahurissante.
Alors dans quelques instants, on va revenir sur certains éléments que vous avez évoqués, notamment sur le Kurdistan, qui sont les Kurdes, quel est cet état qui n'en est pas un, bien sûr, du Kurdistan. Mais simplement une petite précision auparavant, je l'ai dit, vous étiez au Kurdistan irakien, c'est une zone frontière, donc à l'ouest de l'Iran. Vous n'étiez pas directement en Iran, pour quelle raison ne pas vous être rendu dans le pays ?
Tout simplement parce que c'est impossible. En tant que journaliste, pour pénétrer en Iran, c'est vraiment la croix et la bannière. Moi, j'avais fait une demande de visa. J'ai pu me rendre en Iran en 2016 avec un visa tourisme. J'avais fait une demande de visa presse un peu plus tard, en 2018. J'ai pas pu m'y rendre. Tout simplement, la presse en Iran est bâillonnée. Il n'y a que de la presse d'État. Il n'y a pas de presse d'opposition. Il n'y a pas de presse libre. Ce qui complique énormément la situation pour les journalistes étrangers qui peuvent être accusés d'espionnage et passer de nombreuses années en prison. Donc c'est pas un pays dans lequel on peut travailler facilement. Et alors là, il est peu de dire que depuis la mort de Mahsa Amini et le soulèvement qui a suivi, il est impossible et impensable pour des journalistes étrangers de se présenter en Iran. برای توی کوچه رقصیدن برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مغزها که پوسیدن برای شرمندگی برای بیپولی برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زبال گرد و آرزوهاش برای این اقتصاد دستوری برای این هوای آلوده برای ولیعصر و درختای فرسوده برای پیروز و احتمال انقراضش برای سگهای بیگناه ممنوعه برای گریه های بیوقفه برای تصویر تکرار این لحظه برای چهره ای که میخنده برای دانش آموزا برای آینده برای.
Alors vous l'avez dit, Mahsa Amini était kurde. Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont les Kurdes et qu'est-ce que le Kurdistan ?
Alors les Kurdes sont divisés entre quatre États, la Syrie, la Turquie où ils sont le plus nombreux, l'Irak et l'Iran. On compte à environ 40 millions de Kurdes, dont à 9 à 10 millions qui vivent au Rojalat, donc Kurdistan de l'Ouest, le Kurdistan iranien. Ils sont massés dans les zones frontalières entre l'Iran, la Turquie et l'Irak, donc vraiment positionnés sur le flanc ouest du pays. Alors en Iran, comme vous le signalez, le schisme du haut des cimins et la religion d'État. Or, les Kurdes, un, ne sont pas perses, et deux, sont à grande majorité sunnites, donc c'est une double minorité ethnique et religieuse qui est surveillée de près par l'Iran. Pourquoi ? Parce que déjà, du temps du Shah, avant 79, les Kurdes réclamaient un État, voulaient être tout simplement indépendants et joindre avec les autres parties du Kurdistan, irakien, turc et syrien. Et puis, ils ont été aussi, à partir de 79, de fervents opposants à la République islamique, qui a totalement réduit leurs droits aujourd'hui, où il est très difficile d'apprendre, ne serait-ce que la langue kurde. L'enseignement n'est pas interdit, mais ce sont uniquement des écoles associatives qui sont toutes fermées les unes après les autres. La minorité kurde en Iran vit des jours très difficiles depuis plusieurs décennies. Pourquoi l'Iran surveille autant les Kurdes ? C'est pour une raison simple, c'est que historiquement, les Kurdes n'ont pas de sentiment national iranien, comme ils n'ont pas forcément de sentiment national en Turquie non plus, où ils sont le plus nombreux. Déjà, en 1946, une république éphémère avait été créée, la République de Mahabad, où les Kurdes s'étaient soulevés pour proclamer un État indépendant. Ça avait été réprimé dans le sang. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs dizaines d'années au compteur d'un nationalisme kurde volontiers séparatiste, ce qui fait de cette minorité une minorité qui est extrêmement surveillée en Iran.
Et encore plus depuis la mort de Mahsa Amini, évidemment.
Et encore plus depuis la mort de Mahsa Amini, puisque le Kurdistan iranien est en ébullition. Et on le voit, c'est une des zones avec le Baloutchistan qui se situe à l'opposé aux frontières afghanes et pakistanaises et qui est aussi une minorité ethnique et religieuse. Les Kurdes, c'est dans les régions kurdes où il y a le plus grand nombre de morts, de blessés, comme au Baloutchistan d'ailleurs. Des gens que j'ai pu interviewer et qui revenaient, qui étaient présents lors des premières semaines de manifestations en Iran, qui ont fui le pays et que j'ai pu interviewer à la frontière avec l'Irak, me le signalaient. La police, les pasdaran, enfin tous les corps de service de sécurité iranien n'agissent pas de la même manière à Téhéran, à Isfahan ou dans les zones à majorité kurde et balouche. Ils ne tirent pas sur la foule de la même manière qu'ils l'ont fait, notamment à Sanandaj, il n'y a pas très longtemps, Sanandaj qui est la capitale du Kurdistan iranien.
Alors, on va en revenir au Kurdistan dans un instant, simplement pour parler de la manière dont le pouvoir a réagi à ces manifestations. Vous le disiez, depuis le 16 septembre, une partie des Iraniens est descendue dans la rue, des Iraniennes en particulier. De quelle façon le pouvoir a-t-il réagi ?
La première idée du pouvoir, c'est de laisser faire un peu au début, notamment dans les grandes villes, en pariant sur une guerre d'usure, sur un mouvement qui s'essoufflerait très rapidement, et de réprimer dans les zones kurdes et balouches. C'est ce qui s'est passé sur les 2-3 premiers jours. Très rapidement, le régime iranien s'est senti en danger et a exercé une répression absolument terrible. Alors, ça commence par de la violence, beaucoup de violence, par des tabassages en règle, par des exécutions sommaires, et on l'a encore vu il y a quelques heures de ça à Téhéran. Et ça se poursuit par des coupures Internet, parce qu'ils se mènent également une bataille de l'information. Il n'y a pas de presse libre en Iran, il n'y a pas de journalistes étrangers, il n'y a pas de reporters. Donc en fait, les citoyens iraniens, les gens qui manifestent dans la rue, sont presque tous devenus des citoyens journalistes et parviennent, parfois au péril de leur vie, à transmettre des images à des ONG qui travaillent à l'étranger ou tout simplement par les réseaux sociaux. Ainsi, alors, les réseaux sociaux, déjà, sont interdits pour la grande majorité en Iran. Il n'y a qu'Instagram qui est autorisé. Donc, il n'y a pas de Twitter, etc. La grande majorité des Iraniens ont des VPN, donc ils s'en jouent. Il faut voir aussi qu'Ali Khamenei, il y a un compte Twitter, ce qui est quand même prouve un petit peu l'hérésie de la chose.
Des VPN qui permettent de faire semblant d'être à un autre endroit que là où on est, et pour ne pas être identifié comme étant à tel ou tel endroit.
Exactement. Donc les VPN sont la norme pour l'utilisation d'Internet, mais comme si les restrictions ne suffisaient pas, il y a des coupures de réseau, notamment les jours des manifestations. Alors c'est pour ça que les images arrivent très souvent en retard, avec 24 heures de retard, parce qu'il y a des coupures Internet. Chaque fois qu'il y a une grande manifestation, ce sont des coupures localisées pour éviter que des images sortent. On m'a également rapporté des coupures du réseau téléphonique. Ensuite, ça sera l'occasion d'un article qui va sortir dans Libération dans quelques jours. J'ai pu rencontrer les fondateurs d'une ONG qui s'appelle Engao, qui travaille pour les droits humains en Iran. Ils sont basés au Kurdistan irakien. Alors, ils sont basés en Norvège, mais ils vivent au Kurdistan irakien. Et c'est une des deux seules ONG qui permettent de documenter un petit peu ce qui se passe. Ils établissent des listings de toutes les personnes arrêtées, des personnes qui ont été tuées. Et voilà, pour donner quelques exemples, pour que ça parle un petit peu plus aux auditeurs, ce qui se passe en Iran, c'est que quand quelqu'un est tué par le régime, directement la police vient voir la famille de cette personne-là, lui propose une somme d'argent en échange de son silence. Si la famille refuse, ils ont l'impossibilité d'enterrer leur fils, leur fille ou leurs proches. Voilà, la seule condition qui puisse faire qu'ils puissent être entourés de leur famille lors de leur obsèque, c'est d'accepter cette somme d'argent et surtout donc de ne pas déclarer qu'ils ont été tués par le régime. Également, parallèlement, toutes les personnes qui sont arrêtées, il y en a beaucoup dans les manifestations, leurs téléphones sont confisqués, les policiers discutent en se faisant passer pour eux, en leur disant que tout va bien, on discute avec les proches pour essayer de voir quelles sont leurs implications dans les mouvements qui sont en cours. Bref, il y a une véritable politique de la terreur en ce moment en Iran, et ce qui est assez extraordinaire et notable, c'est à quel point les jeunes femmes, à quel point tous ces jeunes hommes qui sont aujourd'hui dans la rue n'ont pas peur, continuent malgré les images qu'on peut voir, et encore on n'en voit que très peu, malgré la violence qui leur a asséné, et malgré le fait qu'il n'y aura pas de retour en arrière pour eux possible, pour toutes ces jeunes filles qui sont dévoilées devant parfois les pasdaran ou devant la police des mœurs ou devant la police tout court, elles ne pourront pas plus jamais reprendre une vie normale. Donc c'est clair que c'est vraiment un point de bascule, c'est un moment extrêmement important, et cette jeunesse aujourd'hui semble rien avoir à perdre.
Qui sont les pasdaran que vous avez évoqués ?
C'est l'armée idéologique de l'Iran, c'est les gardiens de la révolution, donc c'est une armée idéologique qui est en place depuis 79 et qui est largement déployée sur le territoire, et auquel il faut rajouter, alors il y a plein de forces de sécurité différentes en Iran, mais ceux qui jouent un rôle extrêmement important aujourd'hui, ce sont les Basidji, ce sont des volontaires, des soutiens du régime, des volontaires qu'on voit arriver souvent avec un uniforme rapiécé, des dizaines de bâtons, et qui rentrent dans les manifestations pour frapper les gens et pour procéder à des arrestations.
Alors Laurent, vous l'avez dit, vous vous êtes donc rendu au Kurdistan irakien où il y a notamment cette ONG que vous avez évoquée. Avant de parler des personnes que vous y avez rencontrées, en particulier des Iraniennes et des Iraniens, est-ce que vous pouvez nous parler justement de la manière dont vivent les Kurdes en Irak ? La situation est différente de celle qu'ils connaissent en Iran.
Oui, le Kurdistan irakien est un proto-État. Pour vous donner un exemple assez précis, pour rentrer au Kurdistan irakien, on n'a pas besoin du visa fédéral irakien. Un visa directement délivré à l'aéroport d'Erbil, à l'arrivée par les autorités kurdes, suffit. C'est-à-dire que le Kurdistan irakien a un degré d'autonomie qui, pour un peuple sans État, est inégalé. C'est un proto-État où le drapeau kurde s'affiche partout et sur toutes les institutions, où il y a un parlement kurde. Bon, rien à voir avec la situation notamment en Turquie et également en Iran, effectivement. Voilà, donc pour ces jeunes Kurdes d'Iran qui arrivent en Irak, la vie change, puisque, et notamment pour les jeunes filles, il n'y a plus d'obligation de porter le voile. Le kurde se parle partout. Il y a beaucoup d'ailleurs de Kurdes irakiens qui ne parlent pas arabe. Hein. Ils arrivent effectivement dans un endroit qui leur est dans un contexte qui leur est extrêmement favorable. Les Kurdes iraniens, on estime à plus de 100 000 le nombre de Kurdes iraniens qui vivraient au Kurdistan irakien. Alors là, c'est un chiffre, encore une fois, qui porte à débat. Et certaines sources indiquent qu'ils sont beaucoup plus nombreux en réalité. Moi, je me suis rapproché des Kurdes iraniens vivant donc en Irak, au Kurdistan irakien, et qui ont intégré les rangs de l'opposition politique et armée. Il faut savoir qu'il n'y a pas de parti politique d'opposition sur le territoire iranien. Tous les partis politiques d'opposition existants encore aujourd'hui sont dans des pays tiers, et notamment en Irak avec le PDKI, Komala et le PJAK. Le PJAK est une filiale du PKK, Parti des Travailleurs du Kurdistan, originaire de Turquie. Moi, je me suis rapproché du PDKI.
Le Parti démocratique des Kurdes en Iran.
Exactement. Donc, c'est à peu près 3000 combattants. C'est un parti politique qui maintient des activités politiques en Irak, qui est un parti historique, hein, qui existe depuis 1943, à ma connaissance. Il s'est reconstitué en exil à partir du début des années 80 dans les montagnes d'Irak, puisqu'il ne pouvait plus exister en tant que parti d'opposition après l'avènement de la République islamique. Donc ils vivent aujourd'hui reclus dans les montagnes. Ils sont la cible régulière de frappes de missiles balistiques en provenance directe d'Iran ou de tirs de drone. Mais malgré ça, il y a chaque année des dizaines et des quinzaines de jeunes qui viennent et qui partent depuis l'Iran, depuis les régions kurdes d'Iran, pour se dire, voilà, moi c'est terminé, je veux m'engager en politique ou dans la résistance armée. Je traverse illégalement la frontière et clandestinement la frontière au péril de ma vie, parce que les gardes frontières connaissent bien ces chemins et tirent à vue, hein, et je pars rejoindre l'opposition en exil. C'est ces gens-là que j'ai pu rencontrer sur place. Ouais.
Et on renverra vers les articles que vous avez écrits, notamment pour Libération, où vous laissez la parole à ces jeunes hommes et aussi beaucoup à ces jeunes femmes, puisqu'il y a la particularité finalement de cette armée kurde, c'est qu'elle est composée de beaucoup de femmes.
Oui, alors il y a des liens évidents entre les questions féministes et la question kurde. Déjà, en Iran, une des premières organisations féministes, ça date du milieu des années 40, hein, c'était une organisation kurde. D'ailleurs, le slogan « Femme, vie, liberté » vient donc en kurde « Jin, Jihad, Azadi » et a été traduit en persan à la faveur d'une proximité linguistique « Jin, Zendegi, Azadi ».
Persan qui est donc la langue parlée en Iran.
Exactement, et qui s'est répandu comme une traînée de poudre et qui est devenu un étendard mondial. À la base, c'est un slogan kurde qui est né en Turquie, dans les rangs kurdes de Turquie en 2013, et qui s'est propagé notamment en Syrie lors de la guerre contre l'occupation territoriale de l'organisation État islamique. Donc en effet, les femmes kurdes le savent, hein, elles ont été mises sur le devant de la scène, notamment en Syrie, sur cette période, hein, quand, la lutte contre Daesh. Et encore une fois, aujourd'hui, les Kurdes d'Iran qui ont été un petit peu laissés de côté lors de cet épisode-là, empêtrés dans leurs problèmes nationaux. Aujourd'hui, c'est un peu une revanche aussi sur l'histoire pour ces Kurdes iraniens qui sont propulsés sur le devant de la scène. Et ce slogan kurde, et elles me l'ont dit, ces jeunes filles me l'ont dit, elles en étaient presque émues aux larmes, ce slogan « Femme, vie, liberté » qui vient de leur peuple aujourd'hui est devenu un manifeste et un étendard mondial. C'est une grande fierté pour elles et elles le portent encore aujourd'hui, tous les jours, dans les slogans, dans les manifestations ou sur les réseaux sociaux.
Quelle est l'attitude des Kurdes qui se trouvent au Kurdistan irakien depuis le début des manifestations et donc de la répression étatique en Iran ?
Ah, c'est une histoire compliquée parce que les Kurdes irakiens ont un gros degré d'autonomie. Les Kurdes irakiens sont extrêmement dépendants des pays qui les entourent, notamment la Turquie et l'Iran. La stratégie kurde d'Irak, ça a été de prendre ses distances avec Bagdad pendant des années. Et pour ce faire, ils ont traité directement en exportant, par exemple, des ressources à l'Iran et à la Turquie. Donc, en effet, ils sont un peu tenus aux exigences de leur pays partenaire. Hein. Et la Turquie, c'est un effet miroir. Il n'y a pas un jour où la Turquie ne bombarde pas les positions du PKK partout au Kurdistan irakien. C'est une guerre du ciel hein, qui se mène au Kurdistan irakien, avec d'un côté les Turcs qui frappent le PKK et aujourd'hui les Iraniens qui frappent Komala et le PDKI. La situation est très compliquée. Le peuple, en effet, est effectivement solidaire de leurs frères et de leurs sœurs kurdes. À grande échelle, à très grande échelle évidemment, mais il y a assez peu de manifestations finalement dans les rues, c'est une surprise, mais les pouvoirs kurdes d'Irak essaient de faire le moins de vagues possible par rapport à leur remuant partenaire, mais la situation est compliquée. Quelques jours avant que j'arrive sur place, une pluie de missiles balistiques est tombée sur une des bases du PDKI, là où je me trouvais. Il y a eu 14 morts, dont une femme enceinte, enfin une grande majorité de civils. Ça a été un bain de sang. Et face à ça, la région autonome du Kurdistan irakien et plus globalement l'Irak reste malheureusement sans réponse.
Ce qui n'empêche pas, notamment les Kurdes venus d'Iran pour rejoindre le Kurdistan irakien, ce qui ne les empêche pas d'être actifs et en particulier par les armes dans cette zone très montagneuse.
Oui. Après, ils savent hein, ce qu'ils espèrent avant tout, parce que le PDKI et Komala n'ont pas la force de frappe du PKK, très très loin s'en faut. Aujourd'hui, leur activité principale, c'est de s'entraîner si demain il y a un soulèvement armé qui naît en Iran pour pouvoir y retourner. L'objectif du PDKI, c'est de faire vivre un parti politique d'opposition, c'est de continuer à amener dans le débat d'idées. Ils sont extrêmement populaires dans les régions kurdes d'Iran, mais ils le savent aujourd'hui, et c'est là l'extrême complexité de la situation iranienne aujourd'hui, on a affaire à un régime qui est sophistiqué, un régime qui est armé, un régime qui a plus de 40 ans au compteur, un régime qui sait comment écraser les manifestations. En 2019, des milliers de personnes sont descendues en Iran, d'une situation économique largement dégradée. Ils sont descendus parce que le prix de la viande ou le prix du riz, était inaccessible pour eux. Le bilan, selon certaines sources, après plusieurs semaines de manifestations contre la vie chère, s'est soldé par plus de 1500 morts. Ça a été un véritable carnage. Donc le régime l'a déjà prouvé, ça a été le cas déjà à de nombreuses reprises par le passé. Le régime est prêt à tout pour se maintenir au pouvoir, et ce qui est en train de se produire là est encore plus déstabilisant pour lui, puisque le voile qui est devenu un symbole, hein, attention, le voile, c'est pas la question iranienne aujourd'hui ne se résume pas au voile, évidemment, mais le voile est un symbole aujourd'hui pour ces jeunes femmes, est un symbole aussi pour le monde entier. En Iran, il y a deux pouvoirs, il y a un pouvoir politique et un pouvoir religieux. Ces jeunes femmes qui enlèvent leur voile devant les forces de police, c'est une insulte à ces deux pouvoirs, au pouvoir politique et au pouvoir religieux, c'est une insulte à leur autorité. Donc quelque part, le régime se sent extrêmement menacé. Le régime est extrêmement menacé, peut-être plus que jamais, parce qu'il y a aussi un contexte international bouillonnant. En juillet 2015, l'Iran signait un accord sur le nucléaire et le pays devait s'ouvrir à l'étranger. Il y a une vague, moi c'est à cette période-là où j'ai pu aller en Iran et tous les jeunes iraniens étaient extrêmement heureux de ça. Ils disaient enfin, on va sortir des sanctions, on va sortir de cette vie misérable dans laquelle on est et on va pouvoir s'ouvrir sur le monde, vivre comme n'importe qui. Donald Trump arrive en pouvoir, cet accord sur le nucléaire a été déchiré. Et à partir de là, les sanctions ont été réimposées. Donc aujourd'hui, en fait, ce qui se passe aussi en Iran, et il faut le dire, les États-Unis parient depuis des années sur un pourrissement de la situation, sur une chute du régime et sur un renversement par leur propre population. Ces sanctions jouent aussi le rôle d'un catalyseur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer en Iran, sur l'ensemble du territoire iranien, ça vient joindre d'autres problématiques économiques et sociales. La crise est terrible. Et quelques chiffres, en 2016, sur les 83 millions d'Iraniens, 50% avaient moins de 30 ans. En 2021, l'inflation a été de plus de 39%. Ce qu'il faut se dire, c'est que cette jeunesse aussi aujourd'hui, elle considère ne plus avoir à perdre quoi que ce soit. C'est pour ça qu'elle descend dans la rue au péril de sa vie. Mais il y a un contexte international qui fait que, quelque part, l'Iran et la République islamique accusent de traître cette jeunesse. En leur disant qu'ils sont à la solde d'Israël ou à la solde des États-Unis. Ça, c'est la rhétorique du régime qui est en vigueur depuis très longtemps, mais qui intervient dans un régime particulier où il faut bien avouer que les États-Unis ont joué un rôle extrêmement malsain sur cet accord sur le nucléaire iranien, ont brisé l'espoir de milliers de jeunes. Et aujourd'hui, on a une situation géopolitique qui est extrêmement complexe dans la région. Les choses ne sont pas noires ou ne sont pas blanches. Maintenant, par rapport à cette rhétorique de Téhéran et de l'ennemi extérieur, il faut bien être clair. C'est pas les Américains ou les Israéliens qui ont tué Mahsa Amini, c'est pas les Américains ou les Israéliens qui enferment leur peuple et qui ont tué des centaines de jeunes et des centaines de personnes depuis le début du soulèvement. Il faut bien être clair là-dessus, mais il faut aussi peser, et je crois que là c'est notre travail de journaliste de le faire ressentir et de le faire comprendre, l'aspect historique de ce moment. Aujourd'hui, on a affaire à un mouvement qui n'est pas dirigé comme en 2009, où il y a déjà eu un soulèvement à l'époque, on appelle ça le printemps de Téhéran, mais où c'était un mouvement qui était dirigé politiquement. Aujourd'hui, on a affaire à des vagues, des centaines et des milliers de jeunes, des dizaines de milliers de jeunes qui viennent avec l'autorisation de leurs parents. Et ça change par rapport à 2019, ça change par rapport à 2009. C'est-à-dire que les familles sont derrière ces jeunes. Et aujourd'hui, dans les rues, vous avez aussi bien des femmes voilées que des femmes qui refusent de porter le voile. Le voile n'est pas la question. La question, c'est quelque part le droit du peuple iranien à décider de lui-même. Et après 40 ans d'enfermement en général, il y a une vraie volonté de ce peuple. Et je crois que là, ces dernières semaines, on sent le témoin.
Laurent, comment vous les avez sentis, ces Iraniennes et ces Iraniens que vous avez rencontrés, donc Kurdes pour l'immense majorité, que vous avez rencontrés au Kurdistan irakien? Est-ce qu'ils ont l'impression que cette fois-ci, c'est la bonne et que le régime peut tomber à la suite de ces manifestations et de tous les heurts qui secouent le pays aujourd'hui?
Clairement, oui. Il y a un enthousiasme qui est assez fou. Hein. Ils sont persuadés qu'on a passé le point de bascule. C'est difficile après pour nous à saisir, parce qu'encore une fois le régime iranien est fort, hein, on parle pas de rien, et ils ont encore une base sociale qui est extrêmement importante, soit qu'elle soit convaincue ou captive, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, toutes les personnes qui sont dans la fonction publique par exemple sont complètement dépendantes du régime aujourd'hui et le soutiendront en ce sens. Mais à côté de ça, on parle de révolution. Eux parlent de révolution, ils en sont convaincus et ils se disent que finalement, ce mouvement, en quelques semaines, est allé beaucoup plus loin que tous les mouvements précédents et que, bah, eu égard à ça, il n'y a pas de marche arrière possible. Ce qui est compliqué, c'est que le régime iranien, il l'a prouvé, je le signalais tout à l'heure, il est absolument pas disposé à négocier quoi que ce soit. Et encore moins sur les symboles que porte cette jeunesse, puisque c'est le voile, par exemple, ou les droits des femmes, de manière générale, c'est le symbole d'une double autorité religieuse et politique. L'Iran, il y a fort à parier qu'il ne cherchera pas à négocier, qu'il va vouloir enterrer cette révolution. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que ce rapport de force, il est réel, il est en défaveur du régime iranien, très clairement, puisqu'ils ont affaire à des dizaines de milliers de personnes partout sur le territoire. Et les slogans qui sont scandés à Téhéran, « Frères et sœurs du Balouchistan, frères et sœurs du Kurdistan, vous êtes dans nos cœurs, vous êtes avec nous », montrent que, pour, quelque part, peut-être pour la première fois, il y a une réelle symbiose entre toutes les régions d'Iran, puisque ces manifestations touchent l'intégralité du pays. Preuve en est des problèmes actuels en Iran et de la tension qui règne au sommet des dirigeants. Les militaires auraient été augmenté de plus de 50% ces dernières semaines, parce que ce qu'on craint par-dessus tout, c'est que finalement, les militaires changent de camp et abandonnent ce régime, sentant que le vent est en train de tourner. Les semaines qui viennent vont être passionnantes, malgré le caractère absolument dramatique de la situation, on le rappelle, mais c'est un peu sur cette dualité que résonnent et que vivent et qu'espèrent tous ces jeunes Kurdes iraniens, et même tous les Iraniens avec qui j'ai pu échanger depuis le début. Il y a ce mélange d'enthousiasme, d'espoir et de peur également, de peur pour les familles qui sont encore en Iran et qui sont sous la la menace, de peur pour ceux qui vivent encore en Iran, juste parce qu'ils ont envoyé une vidéo à l'étranger ou parce qu'ils ont communiqué avec un journaliste étranger, et puis cet espoir qu'ils n'avaient finalement jamais eu, du moins pas à cette hauteur, de pouvoir enfin changer le cours des choses.
Laurent, une dernière question sur la manière dont vous allez continuer à suivre ces événements. Comment vous pensez assurer la couverture, finalement, d'un pays dans lequel vous n'avez pas le droit d'entrer aujourd'hui ?
C'est extrêmement difficile via effectivement des relais, des sources de confiance telles que l'ONG Engao avec qui j'ai déjà commencé à travailler et qui de toute façon est reprise par Reuters, par l'AFP, par toutes les grandes agences de presse. Voilà, il y a encore des lumières dans ce pays. Nous, on peut pas éclairer ce qui est en train de se passer là-bas, mais il y a des lumières fort heureusement qui jaillissent de la nuit noire iranienne. Je crois que c'est surtout à eux qu'il faut s'en remettre et être très attentif à ce qui est en train de se passer. C'est un casse-tête en tant que journaliste, hein. De toute façon, à chaque fois qu'on peut pas se rendre dans un endroit et qu'on peut pas travailler librement, c'est compliqué de faire état de ce qui se passe. Heureusement, aujourd'hui, la jeunesse iranienne, la population iranienne s'est prise en main sur ce sujet-là et arrive à contourner tous les interdits. Et je crois que c'est à travers eux qu'on va vivre ce mouvement et nous qu'on va essayer de le documenter ou du moins d'apporter quelques éléments d'analyse à ça, parce qu'en effet, il y a la situation nominale, la situation qu'il y a sur le terrain, il y a ce qu'il y a derrière aussi et il y a ce que nous, en tant que journalistes, travaillant sur cette zone-là, ce qu'on peut apporter derrière comme élément d'explication historique ou de contexte.
Merci beaucoup, Laurent. Votre travail est à retrouver notamment dans Libération et nous mettrons dans la description de cet épisode des liens vers vos articles qui ont été publiés dans Le Quotidien. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Etchari, Myrène Garayko-Echea, Inès Chiari, Raphaël Larder, Marion Ruot, coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Taïeb, iconographie Magali Marico. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.